Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Ce matin, en enfilant mon caouet, mes bottes de 7 lieues, mes essuie-glaces à lunettes, je pensais à cette phrase d'Albert Camus dans Nos, une épiphanie qui a sûrement eu lieu pour lui dans un contexte un petit peu plus dramatique qu'un matin pluvieux de juillet. Pensant à vous qui cuisez au soleil, qui rêvez de fraîcheur, j'ai pensé que peut-être vous aussi vous pourriez trouver dans vos cœurs un invincible automne pluvieux. Bienvenue dans le mag de l'été. Ce soir, comme tous les autres soirs, Minus, on parle culture. Et on va faire un truc pas simple, un truc qui relève presque du défi, surtout en radio, faire discuter les silences, savoir ce qu'ils cachent ou au contraire ce qu'ils révèlent, avec deux invités, Jeanne Vissérial et Claire Marin. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous exposez ensemble au lieu unique à Nantes depuis le 20 juin, une exposition co-construite, In Silencio, ou l'art de faire parler les silences. Jeanne Vissérial, vous êtes une artiste textile, vous avez tissé d'un fil des silhouettes muettes qui nous dominent, qui nous interrogent, silhouettes auxquelles répondent vos textes, Claire Marin. Et puis, vous vous intéressez toutes les deux aux vêtements, qui lui aussi cache les corps mais dit des choses. On a eu envie de vous faire discuter avec Olivier Gabet, commissaire de l'exposition Louvre Couture, historien de l'art, qui regarde la mode avec ses yeux-là. Puis à 18h30, comme tous les autres soirs, on fait un petit panorama culture. D'ici là, tombez la chemise, étirez-vous et beurrez un radis. Je m'occupe du reste, le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été, Marie Misset.
Jeanne Vissérial, Claire Marin, est-ce que vous êtes le genre de personne à craindre les silences? Jeanne, peut-être, pour commencer. À les combler.
Peut-être parfois, oui, dans l'environnement social, on va dire. Peut-être des fois j'ai un peu peur du silence, mais dans mon atelier, j'ai jamais peur du silence.
Pas de musique quand vous créez?
Ça arrive. Mais c'est le silence que j'apprécie aussi.
Et vous, Claire Marin?
Non, pas du tout.
Non.
Non, je les laisse s'installer. Je sais qu'il y a des gens que ça...
Vous avez de la compassion pour les gens à qui ça fait peur?
Non, mais ça dit quelque chose d'être capable de rester en silence avec quelqu'un, en fait. De ne pas se sentir nécessairement obligé de meubler. Donc, c'est plutôt bon signe dans certaines relations.
Avant de rentrer plus profondément dans l'exposition que vous avez préparée ensemble, dans ces silences qui vous lient, qui dit Mac de l'été dit test de la personnalité. J'ai envie de savoir quel genre d'estivante vous êtes. C'est l'interview haute saison. Alors, Claire Marin, l'été, vous le fuyez ou vous l'aimez?
Non, je l'adore.
Vous l'adorez? Vous le passez plutôt dans des endroits plus frais que là où il fait trop chaud, non?
Non, je vais plutôt vers le soleil et le grand vent. Donc, il peut faire très chaud, mais il y a toujours du vent.
Quand est-ce que ça commence pour vous, l'été, Claire Vissérial? Pardon, c'est un petit mélange de noms. Jeanne, j'ai décidé que vous appeliez Claire toutes les deux, Jeanne Vissérial.
Pourquoi pas? Ça commence dès le mois de juin, je pense, avec la fin des projets, souvent aussi. Et avec... l'arrivée du temps aussi de réflexion et de création qui est souvent associée pour moi au moment de l'été.
C'est vrai?
Parce que c'est un moment de pause et de silence, même si j'aime toujours travailler.
C'est un petit moment de jachère?
Oui, ou en tout cas de réflexion sur les projets à venir et de réflexion et de création avec du temps.
Claire Marin, vous hochez la tête, vous aussi, c'est un moment de réflexion, de construction intérieure?
C'est un moment où on a, dans tous les sens du terme, on a des longues plages pour... produire, réfléchir, tenter des pistes, ce qui pour moi, le reste de l'année, n'existe pas de la même manière, puisque j'enseigne à temps plein.
Mais donc vous produisez quand même pendant l'été?
Oui, la plupart du temps, c'est pendant les vacances que j'écris.
À quoi ressemblaient vos étés enfants, Claire Marin?
Alors, c'était des étés sur la côte atlantique.
Donc du vent?
Du vent et du sable dans les yeux, ouais.
Quelle odeur a l'été de vos enfances, Jeanne Vissérial?
Le sud de la France.
Les fleurs.
Les fleurs, la lavande. Vraiment cette odeur-là qui me rappelle mon enfance, puisque je suis née dans le sud de la France et on retournait souvent.
Et ça vous y ramène directement?
Oui, oui, oui.
À ce moment-là de l'émission, on essaie de faire remonter le temps à notre invité, de le ramener à l'aide d'un subterfuge sonore à l'été de ses 20 ans. Vous n'avez pas exactement le même âge, Jeanne Vissérial. On a fait l'été 2011 la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a choisi de partir plutôt dans les 20 ans de Claire Marin. On est en 1994. Le tunnel sous la Manche vient d'ouvrir, mais il se passe bien d'autres choses.
Vous êtes bien, monsieur Cassagne?
Parfaitement.
Voilà, j'aurais besoin de vos lumières.
Certainement. Quelle est votre pointure?
Ah non, il ne s'agit pas de chaussures. Il s'agit de mon destin. Je suis comme vous. Je suis un averti. Je connais quelqu'un, mais il ne veut pas de moi. Normalement, je devrais renoncer, ce serait plus sage. Mais je suis pas sage, monsieur Cassagne.
Il y a longtemps, les gens croyaient que quand quelqu'un meurt, un corbeau emporte son âme jusqu'au pays des morts. Mais il arrive parfois, quand des choses trop horribles se sont passées, le corbeau peut faire revenir cette âme pour que le bien reprenne ses droits sur le mal.
Extrait de Zokrao, le loser de Beck, le Seven Seconds de Yusundu et Néné Chéri, ça vous évoque quoi ces bribes de son, Claire Marin?
Est-ce que
déjà il y a quelque chose qui vous évoque
Les musiques, oui, elles me sont évidemment familières, mais moi je pense que j'écoutais plutôt des sons des années 70 quand j'avais 20 ans. Donc peut-être il aurait fallu remonter encore plus loin dans les archives. Et l'été de mes 20 ans, j'étais loin de l'Europe et un certain nombre de références, je pense, m'ont échappé aussi pour ça.
Vous étiez où? Vous étiez
J'étais
en voyage?
J'étais partie au Mexique.
Pour longtemps?
Pour l'été.
Et vous, Jeanne Visseriel, vous vous rappelez de l'été de vos 20 ans? Je sais ça peut représenter.
Oui, j'essaie de me souvenir. J'ai souvenir, en fait, de retourner dans ma famille, parce que je suis arrivée à Paris à 17-18 ans.
Très jeune, quand même.
Assez jeune. Et d'avoir ce souvenir de redécouvrir aussi ma région et de redécouvrir des espaces que j'avais jamais vus de cette façon-là. J'ai un peu ce souvenir-là, moi, de ces premiers étés, après une ou deux années passées à Paris, de revenir...
Comme quand on fait visiter un endroit qu'on aime à quelqu'un et qu'on se rend compte tout d'un coup et qu'on voit des choses qu'on avait oublié de voir ou qu'on voyait plus.
Exactement, qu'on n'avait pas vu de cette façon-là.
On reste en 1994 en tout cas avec ce titre qui a eu son petit succès. Peut-être que vous l'avez écouté quand même, Claire Marin, c'est Blur avec Boys and Girls sur France Inter.
Like boys, big girls, like their girls, like their boys. Oh, it should be some.
France Inter. Le mag de l'été.
La conversation a ses règles culturelles qui ne sont pas du tout les mêmes d'un lieu du monde à un autre, d'une classe sociale à une autre. Et si dans nos sociétés occidentales il est de règle de manifester une certaine loquacité, dans beaucoup d'autres sociétés c'est au contraire le silence qui s'impose, ou alors on ne parle que quand il y a quelque chose vraiment d'important à dire. Mais dans une société par exemple où les hommes sont très silencieux, on n'éprouvera jamais le besoin de dire de quelqu'un qu'il est silencieux.
Le sociologue David Le Breton qui parle de son travail sur le silence, il en parle pour lui-même comme d'une réparation. Et c'est le thème de votre exposition commune In Silencio, faire parler les silences qui a lieu en ce moment au lieu unique et encore pour un mois, Claire Marin, Jeanne Visseriel. Quel statut aujourd'hui, puisqu'il dit que selon les endroits où on est, selon les pays, les cultures, le silence n'a pas le même statut. D'après vous, Claire Marin, quel statut le silence il a aujourd'hui en France en 2025?
Il devient assez rare. Il y a beaucoup de bruit, on est tenté de dire même pour rien. Mais ce qui me frappe en débarquant à Paris là aujourd'hui, c'est aussi le niveau sonore et l'agression du bruit incessant. Et sans doute qu'il y aurait quelque chose à faire dans le réapprentissage en fait du silence.
Il existe, je crois, des lieux, notamment à l'IRCAM, où vous pouvez rentrer dans une pièce où il y a un silence tellement puissant qu'on n'entend tellement jamais qu'on finit par entendre son propre corps. J'y pense parce que ces zones de silence n'existent presque plus.
Il y a des retraites qui permettent ça.
Le silence, parfois, c'est une manière de protéger aussi. On se tait pour pas blesser, pour pas détruire, pour protéger des gens. Vos silhouettes faites de fils, Jeanne Visseriel, vous les avez appelées armors, où on entend à la fois armure et amour. C'est comme ça que vous les concevez, comme des protections?
Oui, je pense vraiment à l'origine, elles sont nées de cette façon-là. En fait, la première sculpture que j'ai réalisée, c'était en arrivant à la Villa Médicis sur une sculpture qu'on appelle Audra Mouillé, qui attendait lascivement, et j'ai eu envie de la protéger, de lui faire une armure. Et c'est vrai que le terme armor me permettait justement de parler de quelque chose de très intime lié à l'amour, ce qu'on ressent, et en même temps de pouvoir la protéger, cette pièce-là.
Et en même temps, ça protège de rien du tout. Les fils, c'est des armures extrêmement fragile.
Alors ouais, c'est vraiment ce jeu-là entre une fragilité, puisque si on les touche, on peut les abîmer, puisque ce sont des installations aussi. Mais à la fois, elles sont faites de fils extrêmement solides, puisque j'utilise de la drisse, qui est une corde utilisée dans la navigation, la scénographie, et qui peut soupeser jusqu'à environ 300 kilos. Donc il y a aussi cette force et cette fragilité.
C'est-à-dire que elles sont incassables presque.
Elles sont très solides, ouais.
Ces grandes silhouettes toutes en fil cousues par Jeanne Visseriel, Claire Marin, elles vous ont inspiré des textes courts. Et on sent parfois dans ces textes que ces statues de fil muettes, qui sont quand même assez grandes, sont aussi intimidantes. Elles sont intrigantes, elles n'ont pas de visage, elles n'ont pas de parole. Elles font aussi un peu peur, non?
Je pense que si on pouvait écouter toutes les réflexions des visiteurs de l'exposition, il y aurait une partie des voix qui dirait leur inquiétude, voire peut-être leur effroi. Et elles sont doublement inquiétantes puisque elles ne rentrent pas dans une catégorie précise d'être. On peut pas dire que ce sont des femmes, des insectes. Donc il y a quelque chose d'autant plus inquiétant que ça brouille en fait.
C'est un problème de définition. Repères, ouais. Et que c'est quelque chose dont on a besoin de savoir à quoi on a affaire.
Disons que c'est quelque chose auquel on est habitué. Je ne sais pas si on en a besoin. Ça simplifie les interactions d'avoir des catégories. Mais on peut très bien aussi vivre dans un monde un peu plus flou où les frontières sont brouillées.
Mais quand même, quelles sont les limites du silence, Claire Marin? Quand est-ce que le silence ne protège plus?
Je crois que la limite, c'est quand le silence est lâche ou quand le silence est dangereux pour l'autre, quand le silence fait du tort, tout simplement. Donc c'est peut-être là qu'on peut voir déjà une première limite.
Chacune de ces silhouettes représente jusqu'à 2000 heures de travail. Jeanne Visseriel, vous les tressez d'un fil. On ne voit vraiment ni le début ni la fin. Est-ce que vous, c'est un travail que vous faites en silence?
C'est un travail que je ne fais pas toujours en silence, mais quand même le nombre d'heures de travail pour une pièce permet un état en fait un peu modifié de conscience. Donc on est dans un état très silencieux et en même temps en discussion avec notre propre voix intérieure. Donc c'est aussi cette question-là du silence qui est très présente, puisqu'il y a quand même parfois une discussion.
Justement, on a reçu la semaine dernière dans cette émission Laurence Joseph, qui a écrit « Nos silences, apprendre à les écouter ». Et elle plaide pour une fraternité du silence et de la parole. Elle explique que le silence, c'est aussi là où naît la parole. C'est ça que vous avez eu envie de créer dans cet espace, un endroit de dialogue intérieur, un endroit peut-être aussi de liberté pour les gens qui la visitent.
Je crois qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre de l'accueil dans aussi le silence de ses œuvres. Tout à l'heure, je disais qu'elle pouvait être inquiétante, mais on a aussi des visiteurs, des visiteuses qui disent qu'ils ont l'impression de pouvoir livrer quelque chose, même sans que ce soit explicitement énoncé, mais aux sculptures qui sont protégées par elles, parce que certaines sont assez imposantes, donc elles peuvent aussi susciter cette conversation silencieuse là.
Et cette envie de protéger leurs secrets peut-être même.
Alors oui, tout à fait, soit elles en ont elles-mêmes, soit elles accueillent les nôtres, on peut l'imaginer comme ça.
Jeanne Bussériel, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous ai vu hocher la tête quand j'ai dit c'est aussi histoire de faire émerger quelque chose.
Oui, complètement, et puis cette question aussi du secret, ces sculptures-là, elles sont, spécialement celles qu'on a choisies pour le lieu unique, elles ont été inspirées des reines qui étaient présentes à la basilique Saint-Denis par exemple, qui sont souvent dites anonymes, dont on n'a pas la trace de l'histoire, dont on a peu de paroles, et donc pour moi c'était aussi important de proposer aussi des figures en fait, et de leur redonner une voix, mais je ne pouvais pas me permettre de leur donner
leur
un discours. Donc, et c'était ça aussi qui était intéressant pour nous dans ce choix de corpus.
Et justement, Claire Marin, c'est vous qui avez demandé à travailler avec Jeanne Bussériel, en tout cas qui avez été interrogée par ce corpus, par ces sculptures qui existaient déjà. Pourquoi ? Pourquoi, effectivement, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie et qui a fait naître cette idée de In Silencio ?
Alors, au départ, les premières œuvres que j'ai vues, c'était des œuvres noires, et donc de couleur noire. J'ai commencé à me projeter dans un dialogue à partir de celles que j'avais vues. Et donc après, quand Jeanne a choisi son corpus, je suis allée découvrir des œuvres blanches à Nîmes où elles étaient exposées. Et donc c'est là que finalement les choses se sont faites en interaction, même si concrètement, géographiquement, on était éloignés, parce que par rapport à ce que j'avais projeté sur les pièces de couleur noire, le fait de se retrouver avec du blanc, c'est des œuvres qui ont aussi des filaments roses, ça produisait en fait un autre texte où
plus de sérénité peut-être, moins d'inquiétude,
pas forcément. Mais d'autres questions, peut-être, d'autres questions.
Il y a un autre travail sur lequel vous vous rejoignez toutes les deux, c'est votre réflexion sur la peau, le plus grand organe du corps. Sujet au cœur de vos réflexions en ce moment, Claire Marin. Et premier vêtement dont vous inspirez dans vos recherches, pour vous, notre peau, c'est notre première sape, Jeanne Bussériel. Mais d'ici là, d'ici ce peau à peau, il y aura un petit panorama de la culture. Et puis on écoute Mathieu Bougartz, toujours très à propos. Il faut toujours écouter son corps, c'est ce qu'on écoute sur France Inter.
Thank you. écouter son cœur aussi. Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit, somnole. Il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. En deux mots, il faut tendre l'oreille, c'est tout. Il le faut, c'est un conseil pour vous. Ça rassure, ça résout, pour être sûr, à tous les coups.
Il faut toujours écouter son pouls.
C'est la nature, voilà tout. Quand il dit, il faut courir. Quand il dit, il faut dormir. Quand il dit, il faut courir. Quand il dit, il faut dormir.
Mathieu Bougartz, il faut toujours écouter son corps, un conseil des plus avisés. Merci Mathieu.
Le mag de l'été. Marie Misset. Sur France Inter.
Tous les jours à 18h34 et 12 secondes, le mag de l'été en mode vigiculturel.
Panneau.
Oui.
Obé. Non, c'est panneau.
Aujourd'hui, dans le panorama, on n'est pas sûr de la météo, alors on se fait des petites expos, on écoute Madness, puis on rigole moyen. L'humour politique aux États-Unis vit des heures compliquées. On s'interroge sur la pertinence de rire encore, sur la satire de plus en plus en deçà du réel et sur leur rôle aux humoristes politiques dans la polarisation actuelle. Les créateurs de South Park sont en conflit ouvert avec leur chaîne Paramount qui doit fusionner avec Skydance. L'avenir de la série Oracle qui a prédit tant de choses est compromis. Une autre victime de cette fusion serait le Late Show de Stephen Colbert, grande voix critique, contre Donald Trump, leader incontesté sur sa tranche horaire. Il vient d'annoncer la fin de son late show, bien malgré lui. Trois jours avant cette annonce, il dénonçait le versement de 16 millions de dollars effectué par la Paramount à Donald Trump. Donald Trump, quant à lui, s'est réjoui publiquement de l'arrêt de cette émission. On va voir des choses belles pour se nettoyer un peu la cornée et se protéger de la pluie. Profitez de l'année Cézanne à Aix-en-Provence. On peut visiter sa maison, son atelier, sa vie. Foncez voir l'expo exceptionnelle d'Okusai à Nantes ou emmenez vos enfants voir la zinzinerie fascinante de Hervé Di Rosa, fondateur du Musée international des arts modestes à Sète. Il expose en ce moment au rez-de-chaussée du MUSEM à Marseille. Et puis j'ai choisi avec mes yeux deux expositions pour vous.
Quand j'ai été à la tête d'une maison de couture, grâce à Monsieur Arnaud, en 87, il m'a dit, mais au fait, qu'est-ce que vous souhaitez? Et je lui ai dit, une maison qui remplirait tout l'éventail, qui partirait de la robe unique, sublime, pour une femme, une princesse, la robe de rêve, jusqu'à la rue et jusqu'à au jean.
Et c'est l'été de Christian Lacroix. C'est lui qui fait les costumes du soulier de satin qui occupe les nuits d'Avignon pendant encore quelques jours, en espérant qu'ils aient le temps de sécher avant ce soir. Mais aussi, mais surtout, au Centre National du Costume et de la Scène à Moulins-sur-Allier, une très belle exposition lui est consacrée. Si vous êtes dans le coin, allez vous faire du bien aux yeux dans ce musée où on a le droit de se déguiser. Pardon. De se costumer. Et puis, tout de même, une exposition à Arles.
Selon la légende, l'icône aurait été peinte par Saint Luc sur un morceau de bois taillé par Saint Joseph lui-même. C'est une vierge noire, dit-on. Vraiment noire ou noire de la fumée des cierges, qu'importe.
Épuisant l'été à Arles pour les fondus de culture. Passez tout de même une tête à la Fondation Manuel Rivera Ortiz. L'endroit vaut le détour et l'exposition qu'on y voit en ce moment, Sortilège, aussi. Elle rassemble des photographes du monde entier et vous emmène au-delà du réel, dans des mondes occultes, magiques et souterrains, les mondes des rites et des chamans, de quoi décoller un peu. Vous si vous n'avez pas envie de bouger de chez vous, que vous voulez une ambiance Angleterre, début des années 80, résistance musicale contre Margaret Thatcher, j'ai un merveilleux documentaire signé Christophe Comte sur le groupe Madness à vous proposer, ou comment cette bande de copains des rues a conquis le monde. Vous y apprendrez que lors de la reformation éphémère de Madness, c'était en 1992 pour deux concerts, la terre a littéralement tremblé, magnitude 5 sur l'aisselle, l'échelle de Richter. C'est ce soir sur Arte. Et si vous voulez sortir, mais que ce soit vraiment gratuit, à Angers, le festival Tempo Rive entame sa deuxième semaine. Tout dans cette manifestation culturelle est gratuit. Concerts, cafés, rencontres, visite du musée des Beaux-Arts, c'est open bar de douceur angevine. Et avec moi ce soir, toujours à la table du MAC de l'été, c'est Jeanne Visserial et Claire Marin. On parle de vos points communs, votre exposition à Nantes, au lieu unique, In Silencio, où vos textes, Claire, répondent à vos sculptures tissées, Jeanne. Mais vous avez un autre point commun important, votre travail sur la peau. Vous le saviez, ça, avant de vous rencontrer, que vous étiez un peu toutes les deux passionnées de peau?
Bah, ça se voit, il me semble. De mon côté, c'était évident qu'il y avait dans ce tissage quelque chose sur l'enveloppe qui allait forcément résonner avec les questions que je me pose en ce moment.
Mais justement, Claire Marin, vos premiers travaux publiés ont pris racine dans une maladie auto-immune qui vous habite. Le corps qui souffre, qui vit, est au centre de beaucoup de vos réflexions. Et là, vous êtes en train d'écrire un essai sur la peau, sur les enveloppes corporelles. De quelles questions, justement, vous partez? Quelle est l'interrogation de base?
Alors c'est la peau en tant qu'elle est ce qui nous permet de toucher, d'être touché, donc comme organe sensible, comme lieu de passage entre et d'expression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est la dimension poreuse de notre être qui m'intéresse, à quel point on est envahi ou habité par l'extérieur, et qu'est-ce qu'on laisse aussi comme trace, nous, qu'est-ce qu'on diffuse.
Et les liens, du coup, j'imagine.
Exactement.
Vous disiez. Ce sont des interrogations qui vous parlent, Jeanne Visserial, à laquelle vous avez des débuts de réponse, des débuts de piste?
Complètement. C'est vrai qu'il y a cette construction, pour moi, qui est une construction plastique, mais qui est aussi technique, qui était vraiment cette étude du corps, de regarder ce qu'il y avait sous notre peau, comme par exemple tout le tissage musculaire qui a inspiré la technique sur laquelle je travaille, mais aussi de...
La technique du tissot tric.
Je fais fou le tricotissage. qui copie les points et les nœuds musculaires du corps humain, qui permet de faire des sortes de radiographies portatives et d'aussi, du coup, montrer ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur et inversement. Et c'est vrai qu'il y a des résonances dans nos travaux. Et moi qui me pose question aussi, au-delà juste de la structure interne, mais aussi de notre place en tant qu'individu et comment on peut agir aussi les uns avec les autres et notre environnement.
Et tout le début de votre création artistique, Jeanne Visserial, de votre recherche, ça part d'une constatation sur la mode, où le sur-mesure n'existe plus et où nos corps se sont adaptés aux vêtements, alors qu'avant, les vêtements s'adaptaient à nos corps. Maintenant, on fait des régimes, enfin, on fait en sorte que les corps rentrent dans les vêtements qui sont faits pour nous. Comment ça vous a mené à cette réflexion sur la peau? Vous avez carrément écrit votre mémoire aux Arts Déco, hein, sur la peau, donc c'est vraiment un sujet qui vous habite.
Oui, complètement. Mon mémoire sur la peau et puis après une thèse de doctorat sur ces questions de la peau et du tissage. Moi, c'est vraiment venu d'un constat, de deux constats. Simplement que l'individu avait disparu du processus de création quelque peu parce qu'on est présent qu'au moment de l'achat en boutique ou sur internet, et du coup de repartir de cette idée de l'essayage qui est présent en sur-mesure. Et en fait, j'ai découvert qu'on avait déjà un tissage sur-mesure interne
qui s'appelle Orio. Voilà,
la peau et le tissage musculaire. Donc c'est vrai que c'était déjà là, en fait.
Le tatouage, par exemple, c'est une forme de rébellion contre cette mode où nos corps sont standardisés. Par exemple, vous dites que c'est des sortes de bijoux qu'on intègre directement à la peau.
C'est vrai que avec l'avènement du prêt-à-porter, qui a été une très belle révolution, on a modifié quand même nos corps pour correspondre aux trois tailles imposées par l'industrie textile. Et donc, il y a forcément des choses qu'on fait pour avoir aussi des choses sur mesure. Et pour moi, le tatouage, c'est aussi quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'avoir une sorte de vêtement sur mesure, d'une certaine façon.
Une forme de résistance. Et donc, pour vous, c'est une inspiration technique. C'est le vêtement le plus parfait du monde, la peau. On peut pas faire mieux.
Ça, c'est sûr.
Quelle réflexion, justement, ça amène sur les vêtements imparfaits?
Les vêtements imparfaits, c'est les plus beaux vêtements puisque en fait nous sommes imparfaits, on n'est jamais symétrique et donc en réalité le sur-mesure est quelque chose de fascinant puisqu'on va essayer de rééquilibrer et d'adapter. Mais si on étudie l'anatomie de ces vêtements, on va voir qu'on a rajouté une épaulette à un endroit, qu'on aura fait en fait pour atteindre cette idée de perfection. Mais c'est ça qui me plaît moi dans le vêtement, c'est tout ce rapport avec la peau directement et le fait qu'il puisse bouger à un moment donné.
Et vous aussi l'étoffe, le vêtement, comme vous réfléchissez sur la peau, l'étoffe ça vous parle aussi,
Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on met contre soi ? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est sans cesse en contact avec nous et qu'on finit par oublier ? Comment est-ce que c'est possible qu'on ne soit pas...
Gêné en permanence.
Voilà.
Il y a des maladies, je me oui. rappelle, pendant le Covid, il y avait, parmi les symptômes, il y avait ce truc de ne plus supporter la moindre chose sur sa
oui,
peau.
Oui, il y a aussi des choses très simples qui font qu'un vêtement devient insupportable s'il y a une étiquette qui dépasse. Ça peut aussi être ce qui produit de l'irritation, du frottement, voire une blessure. Donc le rapport avec des chaussures, c'est plus évident peut-être qu'un vêtement, mais ce qui touche notre corps, c'est quelque chose qui est beaucoup moins anodin qu'on pourrait le penser.
En tout cas, ces réflexions sur les vêtements, on va les poursuivre en invitant une nouvelle personne à notre table, Olivier Gabet, que vous connaissez, Jeanne Visserial, directeur du département des objets d'art du musée du Louvre et commissaire de l'exposition Louvre Couture, objets d'art et de mode, qui rencontre en ce moment un très grand succès au Louvre, à tel point qu'il la prolonge et qui montre que la mode, qui a longtemps été un peu boudée par les musées, par les institutions, est en train de gagner du terrain un peu partout. La mode, les vêtements, l'art, ça devrait vous parler à tous les trois. Et pour préparer cette rencontre au sommet, on va écouter les Freaks Lug nous jeter un sort, ses spells sur France Inter. C'est Xenia Genovese, musicienne originaire de Manchester, qui se cache derrière cet alias pas très appétissant. Enfin, c'est pas ce que dirait Simba. C'était Spells sur France Inter.
Le mag de l'été sur France. France Inter.
Et pour ceux qui nous rejoignent ce soir, nous sommes toujours avec vous, Claire Marin, vous, Jeanne Visserial. On parle de votre exposition sur le silence, In Silencio, qui a lieu en ce moment au lieu unique à Nantes, mais aussi de peau comme vêtements. Et en parlant de vêtements, le MAG vient d'être augmenté d'une personne. Bonjour, Olivier Gabech.
Bonsoir.
Bonsoir, vous avez raison, même s'il fait encore jour. Directeur du département des objets d'art du musée du Louvre depuis 2022, commissaire de l'exposition Louvre Couture, prolongée jusqu'à fin août, qui rencontre, on le comprend puisqu'il y a prolongation, un grand succès. Dans cette expo, vous faites dialoguer chef-d'œuvre des arts décoratifs et vêtements iconiques de grands créateurs. On croise Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent bien sûr, mais aussi des jeunes créateurs comme Jacques Mus, Marine Serre, Jonathan Anderson pour Leuve, Daniel Roseberry pour Schiaparelli. Qu'est-ce qui vous a donné à vous cette idée? Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire dialoguer?
Bon, enfin, ça m'a toujours impressionné de voir combien la création n'est jamais orpheline et que les créateurs de mode répondent aussi à cette définition et que beaucoup d'entre eux sont des visiteurs très férus, très réguliers de musées. Alors, sauf que là, c'est au Louvre et que c'est les collections du Louvre qu'on interroge. Généralement, ils s'intéressent aussi beaucoup à l'histoire de l'art parce que c'est ce qui les nourrit aussi dans leur processus créatif. Et ce qu'on voulait montrer, c'est comment, justement, dans le cas du Louvre et de son département des objets d'art, ces objets peuvent aussi participer du grand laboratoire, de la grande alchimie créative, artistique de ces créateurs. Et comme vous le dites, des gens très confirmés, très connus, et puis aussi des créateurs plus jeunes. Et ça, je trouvais ça aussi important de montrer que c'est très universel.
Qu'est-ce qui vous a le plus amusé comme dialogue, comme correspondance à faire?
Alors, les correspondances qui n'étaient pas toujours celles qui étaient admises ou confessées par les créateurs, il y a quelquefois des correspondances qui sont vraiment très documentées, très référencées. Puis il y avait des choses qui étaient plus, on va dire, de la framince ou alors de l'atmosphère. Et moi, j'ai adoré, par exemple, faire dialoguer ce petit sac du soir qui est en résine, qui représente un pigeon, Jonathan Anderson pour sa propre marque, J.W. Anderson, de le faire dialoguer avec une colombe eucharistique du début du XIIIe siècle, parce que ces deux mondes qui se rencontrent pas forcément et qui ont beaucoup à se dire parce que très franchement la référence même dans la façon de construire l'objet est très forte et donc c'est ça qui voilà un rapprochement qui
m'a
amusé.
Il la connaissait ou pas du tout?
Il la connaissait parce que c'est un corpus qui est on connaît quelques dizaines de ces pièces très importantes fabriquées à Limoges au début du XIIIe siècle dont toutes les grandes collections ont une très belle colombe eucharistique
là, ah oui voilà. C'est un truc, la colombe eucharistique c'était un truc,
c'est un must.
Il faut avoir sa colombe eucharistique. Jeanne Visserial, un texte vous a beaucoup inspiré pour la création de votre clinique vestimentaire dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais voilà, c'est celui de Lidewijk Edelkort, c'est le manifeste anti-fashion. On va en écouter tous ensemble un bout.
J'ai écrit un manifeste pour expliquer pourquoi la mode telle qu'on l'a connue n'existe plus. C'est-à-dire la mode qui nous pousse à être différents, à adopter notre silhouette, on l'a plus. Tout le monde s'est mis à faire des vêtements, finalement. Quand tu réfléchis aux vêtements, tu arrives à des conclusions très intéressantes, d'aller vraiment dans le passé très loin, dans l'archéologie, aller dans l'uniforme, aller dans le quotidien, aller dans des vêtements autistes. Ce qu'on va faire, je pense, pour les années à venir.
C'était pas vraiment un bout de son manifeste, c'était elle qui en parlait. Vous, Jeanne Visserial, c'est ce qui, entre autres, vous a fait revenir à des techniques plus ancestrales, plus anciennes, de faire la même observation que Lidewijk Edelkort?
Oui, effectivement, moi j'étais étudiante en design vêtements en 2013-2014, qui sont aussi les années de cette terrible histoire du Rana Plaza, par exemple, ou aussi du manifeste anti-fashion qui dit clairement que voilà, il y avait des questions à se poser par rapport à la mode, le fait aussi que ce soit la deuxième industrie la plus polluante au monde, et en tant que jeune designer, c'était des vraies questions, et d'où l'idée de créer un lieu immatériel qui s'appelait Clinique Vestimentaire, qui effectivement, pour moi, était un endroit où on pouvait penser EN et AN, le vêtement. Donc on rejoint aussi la question du soin qui est très présente avec le dialogue avec Claire Marin. Mais au-delà de ça, d'imaginer un endroit justement pour réfléchir autour du vêtement, que ce soit un vêtement artistique, une recherche, puisque ça donnait par la suite une thèse de doctorat, donc d'assumer aussi un travail de recherche par la pratique et de questionner le vêtement jusqu'au costume et sans frontières en fait, ce qui était vraiment difficile en tant que designer à ce moment-là.
Olivier Gabet, justement, vous pensez que c'est peut-être ce ras-le-bol dont parlait Lidewijk Edelkort, ou en tout cas cet épuisement peut-être du vêtement comme produit de consommation de masse qui fait un petit peu effet boomerang et qui fait qu'on voit des vêtements justement rentrer au musée, qu'on voit tout d'un coup la mode rentrer dans des institutions dans lesquelles elle ne rentrait pas avant.
Bah, parce que d'abord, c'est une expression créative qui est très forte. On ne va pas se perdre dans des est-ce de l'art ou pas de l'art, etc. Tout ça, c'est... En fait, ce que montre Jeanne, c'est que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est quand il n'y a plus forcément ces étiquetages, ces tiroirs dans lesquels on range commodément plein de créations en se disant « Oh, c'est rassurant, on sait que c'est comme ça ». Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qui rend les choses sans doute plus intéressantes et excitantes. C'est aussi beaucoup plus universel. On se rend compte que tout d'un coup, la mode, le vêtement, en tant qu'objet de création, devient un élément peut-être presque plus compréhensible pour beaucoup de nos visiteurs. Moi, je parle en tant qu'homme de musée, que une peinture ou qu'une sculpture avec un fond mythologique peut-être plus compliqué, que tout d'un coup, on se rend compte que à travers quelque chose qui est à la fois très universel, qui peut paraître aussi un petit peu superficiel, on touche, on dit des choses plus profondes. Il y a ce mot de Karl Lagerfeld sur lequel j'ai placé toute l'exposition, qui est un mot formidable. Je suis superficiel, mais il faut voir aussi la taille de la superficie. Et je pense que c'est ça aussi qui explique aujourd'hui pourquoi beaucoup de musées s'interrogent sur la place qu'on peut donner de façon temporaire ou quand c'est un musée de mode de façon évidemment beaucoup plus pérenne. Une place à cette expression, disons-nous, cette expression artistique ou en tout cas dans laquelle l'art entre pour une très large part. Quand c'est intéressant, sinon en fait c'est la fast fashion et tout le monde s'en fiche.
Ce que vous nous dites, c'est aussi qu'une des raisons pour lesquelles la mode rentre dans les musées, c'est parce que ça parle aux gens. Enfin, c'est un argument pas du tout...
Mais je pense qu'il y a plein de gens, on le voit au Louvre là depuis fin janvier dernier, il y a beaucoup de nos visiteurs qui reviennent au Louvre parce qu'il y a cette exposition. Alors ça veut pas dire que le Louvre ne les intéresse pas en général, c'est que tout d'un coup il y a un effet déclencheur où on se dit, peut-être qu'ils se disent je vais pas être jugé si je connais pas tel créateur parce que c'est pas très grave, alors que je pourrais peut-être me sentir pas forcément très bien parce que je comprends pas le thème de telle la thématique ou le sujet biblique de tel tableau. Et on voit combien, tout d'un coup, un public aussi français-européen revient dans les salles du musée. Un public intergénérationnel, c'était très frappant.
Plus de jeunes.
Beaucoup plus de jeunes. Beaucoup plus de jeunes avec des gens plus âgés. Et où tout d'un coup, le vêtement devient, mais c'est aussi ce que vous évoquez à l'instant, devient quelque chose de passeur, de passerelle entre des générations et entre les modes de création. Et ça interroge les musées aujourd'hui parce que c'est ça remet en cause peut-être certaines idées reçues. Et sans doute que le Louvre, entrant pour la première fois dans cette arène-là, ça a suscité aussi beaucoup de curiosité et peut-être d'étonnement parce que, voilà, on voulait proposer notre réponse.
Parce que ça a été longtemps négligé, voire peut-être, j'allais dire méprisé, c'est peut-être
peut-être pas méprisé, mais en tout cas pas considéré comme ayant sa place dans cette arène-là.
Jeanne Visseriel, vous qui travaillez depuis longtemps sur ce sujet, vous dites régulièrement que les gens savent pas trop où vous ranger, que designer textile, artiste, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à vous ranger parce que vous vous intéressez à la mode. C'est un changement que vous voyez être en train d'advenir, ce truc où la mode prend une autre stature, on la regarde un peu différemment.
Ah oui, complètement. Je le sens complètement dans la façon dont le travail est regardé, apprécié, considéré. Après, c'est vrai que le vêtement, c'est la première chose qu'on fait chaque matin et il questionne aussi tellement... Enfin, c'est vaste. Ça pose aussi la question du costume, du personnage, de comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va représenter.
Qui est-ce qu'on décide d'être?
Exactement.
Claire Marin, cet engouement pour le vêtement, c'est à cause de vêtements, pour la mode qui fait venir les gens au musée, en particulier les jeunes, en tant que philosophe. Vous avez une opinion là-dessus? Vous l'analysez d'une certaine manière?
Alors, en tant que philosophe, je ne sais pas, mais en tant que prof, j'observe comment les filles et les garçons s'emparent de ce rapport ludique, personnel, aux vêtements, avec une créativité, à défaut de faire les vêtements, ce que certains font d'ailleurs, garçons et filles. Je trouve qu'il y en a de plus en plus à revendiquer le fait de fabriquer leurs propres vêtements. Je les trouve beaucoup plus inventifs dans la manière d'aller piocher dans les vestiaires des uns et des autres.
Et dans les époques aussi.
Ouais, tout à fait.
Cette émission touche à sa fin. On a tous besoin qu'on nous conseille des trucs avant de partir en vacances. Avec quoi on va remplir notre kit de survie? Quelques petites questions. Claire Marin, quel livre emporter en vacances qu'on peut lire petit bout par petit bout? On n'est pas obligé de lire 600 pages d'un coup.
Les essais
de Montaigne, wow. Tout simplement. Les petits livres de vacances. Jeanne Visseriel, une série que vous avez vue cette année, que vous voulez que d'autres gens voient pour pouvoir en parler avec eux.
Adolescence.
Adolescence sur Netflix. Olivier Gabay, un objet du Louvre à chercher pour ceux qui aiment la chasse au trésor.
La colombe eucharistique dont on parlait tout à l'heure. Vous allez voir, il n'y en a qu'une seule.
Il n'y en a qu'une seule et pourtant tout le monde devrait en avoir une. Claire Marin, un ou une philosophe à faire lire à un ado qui est a priori un petit peu hermétique. Et me dites pas les essais de Montaigne. Épictète. Jeune vie sérielle, une porte d'entrée pour comprendre Pierre Soulages.
Waouh.
Le musée.
Le musée. Effectivement.
C'est le musée Pierre Soulages à Rodez. Incroyable. Et Olivier Gabay, un livre que vous allez emporter cet été.
Les vagues de Virginia Woolf.
Merci. Les différentes recommandations du kit sont évidemment à retrouver sur le site et l'appli Radio France, mais vous rappelez surtout des essais de Montaigne. Merci à vous Claire Marin, Jeanne Visserial. Filez à Nantes voir l'exposition In Silencio, faites dialoguer votre corps avec ces statues de fil. Elle se termine le 31 août. Et Olivier Gabay, merci beaucoup d'être venu. L'exposition Louvre Couture, on a encore la chance de la voir pour un mois. Ça se poursuit jusqu'au 24 août. Je vous souhaite un très joli et joyeux mois de juillet à tous les trois.
Merci.
C'était le Mac de l'été avec Marion Philippe, Tarana Touri, Ibrahim Damani à la préparation de cette émission, Lucie Lemarchand à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale et à la technique, c'était Fabrice Desmazes.